الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Dans la continuité des conférences qu'on donne sur les aspects pratiques liés à notre religion, et dans la suite des conférences sur la finance islamique, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, très sensible aussi, très méconnu, qui est le sujet des assurances. En donnant un comparatif, on ne prétend pas à la perfection, on ne prétend pas à l'exhaustivité, mais on donnera quelques comparaisons, en tout cas les principales différences entre l'assurance commerciale connue hein, dans le monde conventionnel, l'industrie d'assurance occidentale, et l'assurance islamique, ce qu'on appelle Takaful, hein, l'assurance mutuelle solidaire islamique, Takaful. Donc bien évidemment, on définira ce que ça veut dire Takaful avant tout. Donc, en guise d'introduction, je dirais que la base, hein, comme on l'a vu, la base de la finance islamique, comme on l'a vu plusieurs fois, on l'a répété, découle directement des principes de ce qu'on appelle fiqh al-mu'amalat, hein, le droit musulman concernant les transactions commerciales en islam. Eh bien, ce droit commercial en islam, nous impose un code de conduite moral, éthique, qui est, on va dire, la base de toute la finance islamique. En l'occurrence, donc, je cite les quelques principes, quelques éléments qui évidemment encadrent, si je veux dire, encadrent la finance islamique. Donc l'interdiction du riba, donc on a vu ce que c'est, hein, que ce riba soit dans les transactions ou dans les crédits. Dans le crédit, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le taux d'intérêt. Donc c'est évidemment une contrepartie pour un crédit et qui est donné en contrepartie du temps, et ça c'est interdit en islam, donc le riba. Et donc l'islam encourage le commerce et interdit riba. Et ensuite, donc on a vu le riba dans les échanges, le riba dans les crédits. On a vu aussi une deuxième notion très importante qui est le gharar, qui est la présence d'une tromperie ou d'une ignorance sur l'objet du contrat ou autour du contrat. Donc, on ne sait pas si l'objet existe ou non, on ne connaît pas ni sa quantité, ni s'il sera possible d'être livré ou pas, etc. Donc, c'est aussi une forme d'injustice hein, que va subir, ou un préjudice que va subir l'une des deux parties contractantes. Donc, en islam, évidemment, la darara wa la dirara, on ne subit pas de préjudice et on ne cause pas de préjudice à autrui. Donc la transaction en islam est basée sur l'équité, sur la justice, sur le fait que de ne pas subir à l'autre ou ne pas subir à soi-même, ne pas subir soi-même et ne pas subir à l'autre, ne pas causer à l'autre du mal ou du préjudice, et le consentement évidemment mutuel entre les deux parties contractantes. Donc là, le gharar, c'est, si on veut le résumer, c'est toute transaction comportant un flou ou un aléa. Hein, donc il y a un élément d'incertitude, d'ambiguïté ou de déception. Comme par exemple, il y a aussi le gharar excessif, hein, c'est surtout à ça que se réfèrent les auteurs hein, pour définir cette notion de gharar. Donc le gharar excessif, comme la vente du poisson dans l'eau ou l'oiseau dans le ciel, donc évidemment, donc il y a un hadith connu qui interdit ce type de gharar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'achat d'un animal non-né dans la matrice de sa mère, la vente du lait dans la mamelle sans mesure, l'achat d'un butin de guerre avant sa distribution, l'achat des dons de charité avant leur réception, et l'achat de ce qu'a pêché un pêcheur avant sa pêche. Hein, donc ça résume un peu la chose. Donc voilà, le deuxième élément, donc on a dit c'est le gharar, et troisième élément aussi très important d'interdiction, qui est le qimar ou le meysir, hein, ce qu'on appelle le qimar ou le meysir, c'est toute forme de contrat dans lequel les droits des parties contractantes dépend d'un événement aléatoire. C'est ce qu'on retrouve dans les jeux de hasard aujourd'hui, hein. Donc, c'est-à-dire, on parie sur l'avenir, on spécule sur des éléments de l'avenir, et évidemment, c'est des éléments non connus par personne. Voilà. Donc, c'est-à-dire, cette interdiction du maïssir ou du qimar est explicitement citée dans le Coran, dans la sourate 5, versets 90 et 91. Donc, c'est entre guillemets, c'est de l'argent facile, hein. C'est pour ça que ça s'appelle maïssir. Le mot maïssir en arabe désigne la facilité, c'est de l'argent facile, mais en islam, c'est de l'argent sale et interdit. Donc, évidemment, on ne peut pas gagner de l'argent par ce biais-là, donc qui est aussi une forme d'injustice. Hein. Donc, vous avez vu que le tronc commun, que le point commun entre les interdictions de l'islam, c'est évidemment le préjudice subi, l'injustice, et puis l'élément aléatoire, l'élément d'ambiguïté, d'ignorance, le jahala. Donc voilà. Donc ce sont les principales interdits. Ce sont là les principales interdictions. Évidemment, il y en a d'autres. Il y a des secteurs illicites comme la pornographie, comme les jeux de hasard, comme l'industrie porcine, etc. On va pas, c'est pas le propos. C'est le but de cette introduction. C'était vraiment de rappeler ces principes-là parce qu'on va les retrouver dans notre sujet d'aujourd'hui. On va retrouver notamment l'aspect qimar. Donc l'assurance commerciale, comme elle est connue aujourd'hui dans le monde occidental et aussi même dans beaucoup de nos pays musulmans, l'assurance commerciale comporte un aspect important de qimar. C'est-à-dire qu'on spécule sur l'avenir, on spécule sur la mort, on spécule sur la vie, on spécule sur les incidents de la vie, on spécule sur les dommages qui peuvent arriver ou qui peuvent ne pas arriver, et on spécule sur les intempéries. On spécule sur tout, hein. On vend tous les risques à des prix enfin, qui peuvent varier d'une compagnie d'assurance à une autre. Donc on est en train de spéculer, de parier sur un avenir, sur un risque qui peut arriver ou qui peut jamais arriver, hein. Quand vous assurez une voiture, vous assurez les dommages qui peuvent arriver à cette voiture dans sa vie, et bien ces dommages peuvent arriver ou peuvent ne pas arriver, ce qui donne évidemment un élément d'injustice d'une partie contractante par rapport à une autre. Donc, imaginons que la voiture n'a subi aucun dommage dans sa vie, eh bien, dans ce cas-là, c'est la partie assurance qui est un peu lésée. Et par contre, la voiture subit un dommage tout de suite après son achat par le client, eh bien, c'est cette fois, j'allais dire, si la voiture subit un dommage alors qu'il vient d'être acheté, c'est l'assurance qui va payer, donc c'est elle qui va subir, on va dire, entre guillemets, une injustice. Et si cette voiture ne subit aucun dommage et aucun incident dans sa vie, dans ce cas-là, c'est ce client-là qui aurait payé pour rien. Hein, donc voilà. Je résume un petit peu pour aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler de ce sujet important. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc effectivement, l'assurance commerciale elle a été interdite par les savants musulmans à cause de la présence de ce qimar lié à. C'est toute une industrie de qimar, hein, c'est une spéculation, un pari, en mise sur un avenir, sur un risque. Que ce risque soit réel ou supposé, enfin, on est en train de miser sur un risque qui peut s'avérer ou qui peut ne pas s'avérer, hein. Donc c'est ça en fait ce que je veux dire. Donc voilà. Donc l'assurance commerciale, elle est interdite. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que des savants l'ont tolérée quand il y a une contrainte, quand il y a une nécessité. Donc, par exemple, ici en France, on ne peut pas inscrire son enfant à l'école si on n'a pas d'assurance. Donc, dans ce cas-là, les savants ont toléré aux musulmans de souscrire à cette assurance parce que, évidemment, on ne peut pas priver son enfant d'école, évidemment. Et pareil, hein, il y a des assurances sur la voiture. Si on peut pas, si on ne souscrit pas à cette assurance, on ne peut pas avoir de voiture. Et pareil pour le logement. Donc, les oulamas, les savants de la communauté ont toléré cette assurance commerciale nécessaire dans ce cas-là pour avoir un logement ou pour avoir une voiture, hein. Surtout que ce sont des éléments de première nécessité, surtout enfin, ça dépend un peu de la nécessité, c'est une notion aussi qui dépend du contexte et qui dépend aussi de chacun. Mais en tout cas, en cas de contraintes, de nécessité, comme ce qu'on vient de décrire, cette assurance commerciale a été tolérée par les savants, évidemment, si dans le pays en question, il n'y a pas d'assurance islamique. Si dans le pays en question, il n'y a pas d'assurance islamique, comme c'est le cas en France ou dans certains pays musulmans, eh bien, les oulamas, les savants, ont toléré aux musulmans de souscrire cette assurance commerciale malgré la présence de l'élément de maïsir ou de qimar ou de gharar dans cette assurance. Parce qu'il est obligé, hein, sinon il ne peut pas vivre normalement dans son milieu. Voilà. En attendant la mise en place ou la présence d'une assurance islamique, de ce qu'on appelle tekafoul. Donc revenons maintenant aux différences, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, aux différences entre l'assurance commerciale classique et l'assurance solidaire islamique dite tekafoul. Donc, l'idée même de l'assurance solidaire islamique, ce qu'on appelle tekafoul, c'est toute une industrie, c'est une ingénierie, hein, l'ingénierie tekafoul est basée sur le verset coranique wa ta'awanu. C'est l'aya al-khamisa min surati Ali Imran wa ta'awanu ala birri wa. Sourate Al-Ma'ida. Donc, l'ayat 2 min sourate Al-Ma'ida. Aidez-vous les uns les autres à l'accomplissement du bien et de la piété, et ne vous entraidez pas à commettre le péché et l'agression. Aidez-vous les uns les autres à l'accomplissement du bien et de la piété, et ne vous entraidez pas à commettre le péché et l'agression. Donc, Coran, sourate 5, verset 2. Ayat min sourate Al-Ma'ida. Ayat 2, min surat al-Ma'idah. Ainsi que sur les traditions authentiques suivantes, entre autres, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Nu'man ibn Bashir a rapporté que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Tu vois les croyants dans leur amour, leur affection et dans leur miséricorde qu'ils se portent entre eux, comparables à un seul corps. Lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et sans fièvre. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Donc c'est le hadith 2018 de Sahih al-Bukhari, donc ce qui est un hadith sahih, hein, donc voilà. Donc ça nous montre évidemment cet aspect solidarité qui doit exister entre les membres de la communauté. Donc ici, ils sont comparés, les membres de la communauté musulmane sont comparés au seul corps. Donc imaginez, vous avez mal au petit doigt, et eh bien c'est tout le corps qui s'enfièvre et qui veut pas dormir et qui vous empêche de dormir, il y a les douleurs, la fièvre, par solidarité à ce petit membre. Hein. Imaginons l'ongle ou même l'ongle, hein, même le petit ongle. Voilà. Ce que doivent être les musulmans. Donc, je viens de citer un peu sur quoi s'est basé les savants pour cette ingénierie tekafoul. Donc, deuxième hadith que je cite, qui est très important aussi dans notre sujet. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'une tribu nommée l'Ash'ariyyin, les Ash'arites. Il s'agit de la tribu du compagnon Abu Moussa l'Ash'ari, compagnon connu. Hein. Quand les nourritures des Ash'arites où ceux de leurs enfants manquent, donc deviennent rares, à Médine, ils réunissent tout ce qu'ils ont dans un seul tissu, puis partagent cela entre eux équitablement. Ils sont de moi et je suis d'eux. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est un hadith sahih. C'est un hadith authentique aussi. Hadith al-Ash'ariyyin, inna al-Ash'ariyyin, idha armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinati, jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahidin. ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم فهم مني وأنا منهم أخرجه الشيخان. Ça nous montre que cet aspect solidarité existait et était encouragé par le prophète lui-même, Slaslema, donc il existait au temps du prophète Slaslema, et était encouragé par le prophète Slaslema parce qu'il a dit que ces gens-là sont de moi et je suis d'eux, donc il a donné l'aval et même encouragé et cité élogieusement cette tribu-là par ce qu'elle a fait comme partage, hein, donc comme partage des biens qu'ils avaient entre eux pour s'entraider dans les moments difficiles. إذا ورد تعريف التأمين التكافلي في قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته بدبلن بمعنى الصح، والبديل الشرعي لذلك أي للتأمين التجاري المحرم هو التأمين التكافلي القائم على تكوين محافظة تأمينية لصالح حملة وثائقي التأمين، بحيث يكون لهم الغنم أو المغنم وعليهم الغرم أو المغرم، ويقتصر دور الشركة على الإدارة بأجر واستثمار موجودات التأمين بأجر أو بحصة على أساس المضاربة، وإذا حصل فائض من الأقساط وعوائدها بعد دفع التعويضات فهو حق خاص لحملة الوثائق، وما في التأمين التكافلي من غرر يعتبر مغتفرا، لأن أساس هذا التأمين هو التعاون والتبرع المنظم، والغرر يتجاوز في التبرعات والغرر يتجاوز في التبرعات، فالتأمين التكافلي عقد تعاون وإرفاق، عقد تعاون وإرفاق. Donc, si dans les assurances commerciales classiques, on est un peu dans le cadre de la recherche du bénéfice généré par la différence entre les primes d'assurance, donc les versements des assurés versés à l'assurance, et ce que l'assurance paye aux assurés pour les indemniser en cas de dommage, donc quand le dommage arrive, effectivement, ces assurances utilisent ensuite l'argent des assurés sans même leur connaissance dans des investissements de toutes sortes, y compris ceux illicites au regard de l'islam, par exemple. Ou généralement, des intérêts comme prêts à intérêt, hein, donc voilà. Et les assurés n'ont aucune part dans les bénéfices et ne partagent rien. Ça, c'est très important à souligner dans l'assurance commerciale classique connue aujourd'hui. Les assurances commerciales classiques investissent le surplus d'argent dans le riba, donc dans les intérêts bancaires interdits en islam, comme on le sait, et comme des achats d'obligations, par exemple, donc dans le marché obligataire. Et on a vu que l'alternative du marché obligataire, ce sont les sukuk, hein, ce sont les sukuk. Comme on l'a vu, comme alternative du compte d'épargne ou du compte d'investissement, on a vu l'alternative qui est le mudaraba, et on a vu comme alternative au financement pour l'achat d'un actif, on va dire en résumé l'alternative au prêt à l'acquisition. Ou prêt pour un achat mobilier ou immobilier, c'est le mualabaha par exemple. Hein, donc on a vu tous ces éléments-là, on ne va pas y revenir. Donc évidemment, donc il y a une alternative à chaque contrat qui existe aujourd'hui dans la finance conventionnelle. Donc donc je ferme cette parenthèse sur le marché obligataire. Ça c'est ce qui concerne les assurances commerciales classiques. Donc ils sont alimentés par les bénéfices générés entre les différences des primes d'assurance et ce que l'assurance verse. À l'assuré, donc en cas de dommage, ils investissent ces choses-là, donc ces bénéfices dans des placements qu'on ne peut pas contrôler, que l'assuré ne contrôle pas. Et puis il y a évidemment beaucoup de choses que, comme le marché, donc l'investissement dans le marché obligataire, comme l'intérêt, l'usure, etc., que l'assuré ne contrôle pas. Alors que si on veut faire le parallèle avec l'assurance solidaire islamique, l'assurance solidaire islamique, on y vient, donc elle se base sur le volontariat des participants, donc des assurés qui sont assurés et assureurs, donc il y a le côté participation, chacharok, et donc c'est du volontariat pour s'entraider en s'engageant à verser chacun une somme d'argent. Ces assurances solidaires islamiques ne sont pas basées sur le bénéfice, ce n'est pas leur but, mais dégagent des sortes de dividendes versés aux assurés selon leur pourcentage de participation, ce qui est très important. Les assurances solidaires islamiques investissent selon des contrats islamiquement valides et dans des secteurs licites. Donc ils investissent selon une mudaraba, une musharaka, et dans des secteurs licites. On ne va pas voir une assurance islamique, une takaful, qui va investir dans du marché obligataire. Par exemple, ça, on ne va pas le voir. وأنه يقوم على مبدأ التعاون الإسلامي وأن أساسه عقد التبرع الشرعي وأن هذا التبرع يلزم في القول على رأي الإمام مالك رضي الله عنه. وعلى ذلك فإن كل عضو فيما يسمى بهيئة المشتركين يصبح ملتزما بدفع القسط بمجرد توقيعه على عقد التأمين، وإن كان على أساس دفع القسط، أساس دفع القسط هو التبرع. Donc, résumé de l'assurance solidaire islamique, ce qu'on doit retenir, si on, vraiment la chose la plus importante qu'on doit retenir pour comprendre la grande différence, hein, et on va citer pas mal de différences entre l'assurance commerciale et l'assurance islamique, l'assurance commerciale conventionnelle et l'assurance islamique, mais retenez que la plus importante des différences entre les deux, c'est la notion de tabarro, la notion de volontariat, donc la notion d'entraide mutuelle et de solidarité. Donc l'assurance solidaire islamique, elle se base sur ça. C'est un contrat d'entraide et de volontariat. Donc évidemment, et de deux, les assurés sont des participants. Ils participent. Ils participent et on va voir qu'ils ont une partie du bénéfice. Une partie du bénéfice, c'est-à-dire ils sont assurés et assureurs. Ils sont assurés et assureurs. Donc il y a une espèce de participation. Et donc ils sont des investisseurs. Donc leur argent, elle sert à quelque chose. Et le fruit de du placement, ils le récoltent. Hein, donc ils récoltent une partie du fruit du placement. Les placements sont licites. Et le contrat en lui-même n'est pas un contrat commercial. Il n'est pas basé sur la spéculation sur l'avenir. Mais il est basé sur le volontariat et l'entraide. L'entraide en cas de problème qui survient à l'un des assurés. Donc quand quelqu'un qui a payé sa partie, qui a payé une partie, donc qui a payé une prime, qui a payé une part, il lui arrive malheur, c'est-à-dire un incident, un accident, un dommage, etc. Eh bien, de façon volontaire, les parts des autres lui reviennent, jusqu'à ce qu'il s'en sorte, jusqu'à ce qu'il se remet sur pied. Voilà, donc c'est un aspect solidaire, c'est un aspect volontaire. Les assurances commerciales classiques sont basées sur le rarar. La vente rarar, on a dit que qu'on ne sait pas si l'objet existe ou non, et on ne connaît pas quelle est sa quantité, ou s'il sera possible de la livrer ou non, et c'est une transaction qui comporte un flou, un aléa et des incertitudes extrêmes. Et ce type de contrat, évidemment, est interdit en islam. On a dit qu'en cas de contrainte, on pourrait, les savants ont toléré l'utilisation de cette assurance commerciale en cas de non-présence de l'assurance solidaire islamique. التأمين التقليدي يغلب عليه طابع الغرر. فهو الغرر بعينه. لأنه وفيه الغرر الشديد يعني. ليس فقط الغرر اليسير. فيه الغرر الشديد. أما التأمين التكافلي فيخف فيه الغرر وذلك لعنصر التبرع القائم عليه ومحدوديته ومحدودية المؤمنين فتجيزه الحاجة وهذا الفرق الأول هذا الفرق الأول فالتأمين التكافلي عقد إرفاق ومعروف عقد إرفاق ومعروف لأن نيته تعاون ولهذا يغتفر فيه الغرر لهذا يغتفر فيه الغرر لأنه ليس عقدا تجاريا وإنما هو عقد إرفاق ومعروف مبني على التبرع. Les assurances solidaires islamiques sont basées sur l'entraide, principe de mutuelle solidaire. Comme ces assurances ne sont pas commerciales à la base, alors le peu de rarar qui peut exister est pardonné et toléré parce qu'on parle ici de volontariat, on ne parle pas de commerce. Dans l'assurance solidaire islamique, le commerce est annexe, c'est-à-dire c'est le placement des parts, des primes, qui est commercial. C'est une partie annexe. Mais l'intention de base dans l'assurance islamique solidaire, c'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est le volontariat. Elle part du volontariat. C'est très important à noter. Donc, comme ces assurances ne sont pas commerciales à la base, et l'intention n'est pas le commerce, l'intention c'est l'entraide, le peu de rarar qui peut exister est pardonné et toléré. C'est un contrat d'entraide et de bienfaisance. Ce n'est pas un contrat commercial. L'assurance solidaire islamique est un contrat d'entraide et de bienfaisance. Les uns vis-à-vis des autres. Donc on a dit les hadiths sur lesquels s'est basée l'industrie takaful, donc cette entraide mutuelle entre les croyants.
واعتبر المالكية أن الغرر إذا كان مضافا لأصل
جائز يغتفر للحاجة بخلاف ما لو كان الغرر أصلا في العقد فيبطل العقد. Donc ici, le gharar n'est pas l'élément constitutif du contrat. Le gharar n'est pas ici, dans l'assurance islamique solidaire, n'est pas l'élément constitutif du contrat, n'est pas la base du contrat, mais il est annexe. Il est annexe et le contrat de Takaful est un contrat à la base, dans son intention, c'est une entraide et une solidarité et une volontariat. Et un volontariat, pardon. Ce que les assurances solidaires islamiques versent aux assurés victimes d'un dommage est un tabarru', donc une indemnité volontaire, dont d'une partie du bénéfice ou du bénéfice entier. Ce sont des dons d'une partie du bénéfice ou du bénéfice entier. Dans les contrats islamiques dits mudaraba, on peut faire un don volontaire d'une partie du capital. Ça, c'est connu. Et dans les assurances islamiques, on souligne l'aspect participatif des assurés. Ce que les assurés versent, c'est une participation et non une contrepartie. Laïsa muqabil. إذن أهم الفروق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري أن التأمين التعاوني الإسلامي لا يستهدف الربح إلا عرضا على عكس الحال في التأمين التجاري الذي يعني فيه الكسب من الغرر. ثانيا المؤمنون في التأمين التعاوني هم المستأمنون أنفسهم فلا تعارض مصلحي بينهم. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt entre les assurés et les assureurs. Ça c'est très important dans la finance islamique, dans l'assurance islamique. Il n'y a pas de conflit d'intérêt entre les assurants et les assurés parce qu'ils participent tous à la gestion. Donc s'il y a des bénéfices, eh bien tout le monde profite de ces bénéfices. Donc il y a des parts désignées à l'avance quand il y a placement de l'argent quelque part. Donc je continue parmi les caractéristiques principales des assurances islamiques solidaires, c'est que les membres, les participants sont à la fois assureurs et assurés, ce qui élimine tout risque de tromperie, rabn, d'opportunisme et de conflit d'intérêts. Les sommes versées reviennent en final à ceux qui l'ont versé. Donc il n'y a pas d'opportunisme, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ijtima' sifat al-mu'ammin wa al-mu'amman lahu li kulli 'udw. Idan a'dha' at-ta'min at-ta'awuni yatabadaluna at-ta'mina fima baynahum idh yu'ammin ba'dhum ba'dhan. Donc ils s'assurent entre eux, hein, c'est très important. Cette participation, cet aspect participatif. Deux, donc l'équité de comportement entre les participants sans favoriser qui que ce soit et n'importe qui peut participer et devenir membre. Démocratie al-milkiyya wal-idara. باب العضوية مفتوح لكل راغب في الانضمام دون تمييز بين أحدهم. Et ils ne sont pas basés sur le bénéfice, donc les services aux membres sont donnés au moindre coût, et l'objectif n'est pas de faire du bénéfice en assurant, ni de parier sur l'avenir et tout surplus après le versement des indemnités est reversé aux membres. Donc ils ne sont pas basés sur le bénéfice et les services aux membres sont donnés au moindre coût et l'objectif n'est pas de faire du bénéfice en assurant ni de parier sur l'avenir. Et tout surplus, donc le reste, après le versement des indemnités, est versé aux membres. إذن العدام عنصر الربح إن حصل الهدف في التأمين التعاوني في توفير الخدمات التأمينية لأعضائها على أفضل الصورة بأقل تكلفة ممكنة. Et quatrièmement, la direction est confiée aux membres eux-mêmes qui font une élection entre eux d'un comité de direction et participent à le contrôler. قرار المجلس الأوروبي تأمين وإعادة التأمين. إذا ناقش المجلس البحث والأوراق المقدمة إليه في موضوع التأمين وما يجري عليه العمل في أوروبا وطلع على ما صدر من المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية في هذا الشأن وانتهاء إلى ما يلي مع مراعاة ما ورد في قرارات بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري الذي يقوم على أساس الأقساط الثابتة دون أن يكون للمستأمن الحق في أرباح الشركة أو التحمل لخسائرها. إذن الذي يقوم على الأساس الأقساط ثابتة دون أن يكون للمستأمن الحق في أرباح الشركة أو التحمل لخسائرها ومشروعية التأمين التعاوني الذي يقوم على الأساس التعاون المنظم بين المستأمنين واختصاصهم بالفائض إن وجد مع اقتصار دور الشركة على إدارة إدارة تأمين واستثمار موجوداته. فإن هناك حالات وبيئات تقتضي إيجاد حلول لمعالجة الأوضاع الخاصة وتلبية متطلباتها، لا سيما حالة المسلمين في أوروبا حيث يسود التأمين التجاري وتشد الحاجة إلى الاستفادة منه درءا للأخطار الذي يكثر تعرضهم لها في حياتهم المعاشية بكل صورها، وعدم توفر البديل الإسلامي أي التأمين التكافلي وتعسر إيجاده في الوقت الحاضر. فإن المجلس أفتى بجواز التأمين التجاري في الحالات التالية وما يماثلها: حالات الإلزام القانوني مثل التأمين ضد الغير على السيارات والآليات والمعدات والمعمال والموظفين، الضمان الاجتماعي أو التقاعد، وبعض حالات التأمين الصحي أو الدراسي ونحوها، حالات الحاجة إلى التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة حيث يغتفر معها الغرر القائم في نظام التأمين التجاري. ومن أمثلتها التأمين على المؤسسات الإسلامية كالمساجد والمراكز والمدارس ونحوها، التأمين على السيارات والآليات والمعدات والمنازل والمؤسسات المهنية والتجارية درءا للمخاطر غير المقدور على تغطيتها كالحريق والسرقة وتعطل المرافق المختلفة، التأمين الصحي تفاديا للتكاليف الباهظة الذي قد يتعرض لها المستأمن وأفراد عائلته، وذلك إما في غياب التغطية الصحية المجانية أو بطئها أو تدني مستواها الفني. ثانيا، إرجاء موضوع التأمين على الحياة بجميع صورها إلى دورة قادمة إن شاء الله، و يعني لا بد من التفكير في هذا المجال بصفة عملية وبتعاون وتشارك جميع الهيئات الفاعلة الموكل لها العلماء والمختصين في المالية الإسلامية. En résumé, en attendant la mise en place d'une assurance islamique, l'assurance classique obligatoire s'impose inévitablement à l'assuré et celui-ci est alors excusable. Donc, comme chez nous aujourd'hui, il doit y adhérer pour habiter un logement, pour s'inscrire à l'université, ou pour inscrire son fils à l'école, ou pour ses besoins nécessaires afin d'éviter la grande difficulté ou le danger. Il y a la contrainte qui implique excuses et dérogations, et tout râleur est alors pardonné. Quant à l'assurance facultative et optionnelle, qui revêt un caractère commercial, il n'est pas permis d'y souscrire. C'est assimilable au jeu de hasard interdit, donc le qimar, et il comporte du râleur excessif, donc illicite. Donc on a dit, quant à l'assurance facultative et optionnelle, qui revêt un caractère commercial, il n'est pas permis d'y souscrire. C'est assimilable au jeu de hasard interdit, donc le qimar, et il comporte du râleur excessif, donc illicite. Donc on a dit, cette assurance commerciale qui est nécessaire et qu'on ne peut pas faire autrement pour éviter les risques, donc comme l'assurance qu'on doit souscrire pour ramener ça pour inscrire son fils à l'école, ou comme l'assurance pour le logement, ou pour les engins, pour les gens qui travaillent dans des entreprises, ou pour la voiture, etc. Donc voilà, c'est un sujet que j'ai essayé de résumer, qui est assez vaste, hein, donc je vous invite à poser vos questions. Et donc, j'espère qu'on apportera plus de précision à travers les questions.